Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous vous souvenez de ce moment où le grand violoncelliste Mstislav Rostropovitch est descendu au pied du mur avec son violoncelle le soir du 9 novembre 1989 pour jouer ce qu'on entend là?
Je m'en souviens très bien et j'en ai été très ému.
De la même façon que vous avez ressenti une émotion particulière. Vous n'étiez pas à Berlin le 9 novembre 1989.
Pas à Berlin, mais pour moi, avoir tous ces jeunes gens, toute cette fraternisation, ce mur qui s'était surmonté et qui allait être brisé, pour moi c'est un des grands moments de l'histoire. Moi, ce que j'appelle une extase de l'histoire, c'est-à-dire de ces moments inoubliables où à la fois la liberté et la fraternité semblent régner. Bien entendu, ces moments sont provisoires, il y a la retombée par la suite, mais ils sont inoubliables. Et dans le fond, peut-être c'est pour ces moments que ça vaut le coup de vivre.
Vous aviez écrit un article pour Le Monde. Vous vous rappelez dans vos mémoires, les souvenirs viennent à ma rencontre. Très gros livre aux éditions Fayard. Et vous vous rappelez dans ce livre-là que vous aviez écrit pour Le Monde un article où vous disiez, Edgar Morin, que 1789 avait battu 1917 en 1989. Ça voulait
exactement
dire quoi?
Oui.
Et ça voulait dire quoi à ce moment-là?
Et c'était ça, parce que longtemps, beaucoup de ceux qui étaient communistes ou sympathisants croyaient que la grande révolution décisive, c'était celle de 1917 et que 89, c'était une sorte de hors-d'œuvre. Alors qu'on voit avec l'effondrement, après 70 ans de tout le système, et même qu'il a provoqué une réaction incroyable partout où il a régné, on voit aujourd'hui que restent vivants les idéaux de liberté, égalité, fraternité, et le message de la Révolution française, surtout aujourd'hui, où il y a des régressions politiques, économiques, un peu partout dans le monde, qui rendent encore plus urgente la défense de ces valeurs de 89.
Vous diriez que c'est une victoire de quoi? Là, vous dites beaucoup la liberté, c'est d'ailleurs le titre de une du journal Le Figaro aujourd'hui, la victoire de la liberté. On a beaucoup parlé, en tous les cas, il y a 30 ans, de la victoire de la démocratie. On peut se souvenir même du président français de l'époque, François Mitterrand, qui, lors de ses vœux le 31 décembre 1989, disait « Nous venons de vivre la plus éclatante victoire de la démocratie ». Edgar Morin, de la démocratie ou de la liberté?
Mais écoutez, les deux sont absolument indissociables. Et en plus, c'était dans le fond d'une nation qui a été coupée en deux par l'arbitraire de la guerre froide et qui se retrouvait dans son unité. C'est la victoire, dans le fond, d'un peuple aussi. Donc, c'est une victoire totale puisque ce fut un moment de fraternisation inouïe. Comme je l'ai dit, ça a retombé par la suite, mais c'est un moment symbolique.
Alors ça retombe un peu de plus en plus, au bout de 30 ans, puisqu'aujourd'hui, Edgar Morin, cette vision des choses est plutôt battue en brèche. On entend dire qu'on se serait trompé, que ce n'était pas du tout la fin de l'histoire, que ce n'était pas la victoire de la démocratie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, que la contre-révolution illibérale, finalement, elle est due à cet échec de la révolution libérale de 1989. Qu'est-ce que vous pensez de cette révision de l'histoire?
Mais vous savez, rien n'est irréversible dans l'histoire. La démocratie qui semblait tout à fait et presque permanente en 1939 s'est effondrée en France en 40 après la défaite. La démocratie est un régime fragile qui a besoin d'enracinement. Mais ce que je crois, c'est que dans l'histoire, nous avons sans arrêt des périodes de régression et des périodes de progression. Et c'est dans les périodes de régression que le message prend sa force. Dans le fond, si vous voulez, prenez 89, c'est après la Restauration, après Louis-Philippe, que la révolution de 1848 est arrivée, non seulement en reprenant les idées de 89, mais en ajoutant un contenu social, et que la Commune a voulu reprendre ça, et que la Troisième République. Donc, si vous voulez, on est toujours dans l'histoire, dans une aventure. Rien n'est à jamais acquis. C'est ça qu'il faut comprendre, ça veut dire qu'il faut sans cesse maintenir la lutte pour liberté, égalité et fraternité.
Et vous voulez dire aussi que ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs de fait politiquement en 30 ans qu'il faudrait revoir ce qui s'est passé il y a 30 ans comme étant en fait non pas une victoire mais un échec. C'était une victoire de la liberté à cette époque-là, c'était une victoire de la démocratie et puis ensuite les usages de l'histoire et de la politique font que les choses se transforment. C'est aussi ça que vous voulez nous dire ?
Il faut rappeler que la chute du mur de Berlin est due à un mouvement populaire, ce n'est pas dû ni au gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest, et bien entendu pas à celui de l'Allemagne de l'Est. Bien entendu, c'était un moment où commençait à se décomposer le système soviétique, mais c'est la poussée. Vous avez vous-même dans votre émission rappelé tous ces garçons qui allaient en Autriche, qui franchissaient déjà la barrière, et dans le fond, jamais. Ce sont de ces événements où ce sont les. À partir des peuples, des besoins des gens qui s'expriment. Mais comme toujours, tous les mouvements qui viennent des profondeurs, des moments spontanés, sont repris en main par des partis politiques, sont détournés. Nous l'avons vu pour le printemps arabe, nous le voyons sans cesse dans l'histoire. Je le répète, c'est un moment important. Mais après, il y a la retombée, puisque dans le fond, ce dont on s'est rendu compte après, c'est que en 91 commence une guerre au cœur de l'Europe, qui est la guerre de Yougoslavie. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que l'Europe est prise en main de plus en plus par une bureaucratie et par des intérêts de profit économique. On se rend compte ensemble qu'une régression commence. Et ça s'est passé aussi en Pologne, en Hongrie, où après l'explosion de la liberté, vous avez des mouvements régressifs. C'est ça qu'il faut comprendre, que on n'est jamais dans la permanence, on est dans le fait que sans arrêt, les forces d'union, de démocratie, de fraternité doivent recommencer, parce que sans arrêt reviennent les régressions, comme c'est ce qui se passe en ce moment.
C'est un moment, Edgar Morin, vous le rappeliez, qui ne se tient pas au 9 novembre 1989, qui a été préparé, qu'on a d'ailleurs connu aussi en août 89 en Hongrie, en effet. Mais c'est aussi un lieu, malgré tout, cette date du 9 novembre 1989, ça s'est passé à Berlin, puisqu'un mur physique est tombé. Or, Berlin, c'est une ville que vous aimez particulièrement. Vous lui consacrez un livre là qui est réédité, c'est une nouvelle édition, dans Berlin en métamorphose, qui raconte au Cherche Midi ces nombreux voyages que vous avez effectués à Berlin. Nombreux voyages puisque le premier d'entre eux était en juin 1945. Donc Berlin était en ruine, vous vous souvenez de cette émotion devant la ville en ruine que vous découvriez. Puis vous avez connu la ville divisée en deux, avant et après la construction du mur, 5 ans, 57, 64, 88, et vous y êtes retourné en 1990, donc juste un an après la chute du mur. Vous vous dites, vous vous souvenez d'une ville qui était en métamorphose encore, mais paisible, pacifique, où circulaient librement les trabans qu'on voyait toujours. Mais ça n'était pas encore complètement changé à ce moment-là. C'est beaucoup plus tard qu'est venu le changement, dans les années 2000-2010, où là vous écrivez « Les anciens bâtiments construits par la RDA avaient été détruits et remplacés par des bâtiments à l'occidentale ou à l'américaine avec beaucoup de verre et d'acier, du clinquant, du flambant. » Et on sent une forme de nostalgie quand vous écrivez ça, Edgar Morin.
Écoutez, c'est pas du tout la nostalgie de ces bâtiments austères et sinistres de la RDA. C'est de voir que quelque chose, disons, qui est le pouvoir de l'argent, cette économie néolibérale, qui s'implante effectivement dans ce pays. Mais je pensais que le Berlin, encore des dernières années, était un Berlin qui était une ville si vous voulez, où une jeunesse venue de tous les pays se rencontrait, un berlin de liberté, de fraternisation. C'était le contraire du rêve de Hitler. C'était le mélange des ethnies, des races. C'était la liberté. Donc, si vous voulez, et puis après, ces deux dernières années, je ne sais pas, il y a encore des changements. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé dans mes expériences, c'était de voir comment une ville devenait deux villes apparemment jumelles, mais qui chacune va appartenir à une galaxie politique ennemie. C'est-à-dire que le monde soviétique et le monde occidental avaient trouvé à Berlin cet endroit où ils s'affrontaient, d'ailleurs il y a eu le siège de Berlin, et en même temps deux civilisations tout à fait différentes s'implantaient dans la même ville et pour le même peuple. Bien sûr, il en restait pas mal, puisqu'après la chute du mur, beaucoup de gens de l'Est continuaient à manger des pommes de terre et des saucisses, alors que beaucoup de jeunes de l'Ouest prenaient déjà des pizzas ou de la mozzarella. Mais enfin, il est évident qu'il y a eu quelque chose qui jamais ne s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire, dans la même ville, on pouvait lire l'histoire des rapports entre l'Ouest et l'Est de 1945 jusqu'à 1989.
C'est une ville symbole, Berlin. Une ville emblématique, et en particulier lors de ces quelques 70 ans dont on parle aujourd'hui. Est-ce que le sort de l'Europe se joue à Berlin? Pour reprendre une question que vous posez vous-même, Edgar Morin, l'Europe se désintégrera-t-elle à partir de Berlin? Ou se construira-t-elle?
Ce n'est pas impossible, puisque actuellement l'Europe est un squelette, et un squelette tient mieux que les chairs en général. Mais je veux dire qu'à partir d'un squelette, quelque chose peut se reconstituer. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il adviendra de l'Europe. Moi, je pense qu'actuellement, il faut sauver ce qu'il reste. Mais non, l'Europe n'a plus d'âme, l'Europe n'a plus d'esprit. L'Europe est une institution où des forces centrifuges sont très puissantes, ce qui empêche le départ d'autres pays que l'Angleterre, c'est les intérêts économiques, par exemple de la Hongrie et autres. Mais si vous voulez, l'Europe est actuellement malade. Donc la question de l'avenir n'est pas jouée encore.
Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire, Edgar Morin, où l'Europe n'a pas été malade?
L'Europe, disons, en tant qu'elle est... C'est toujours à l'état naissant que sont les choses belles. C'est-à-dire que quand l'Europe a été décidée par une coalition de sociodémocrates et de démocrates chrétiens, dans le fond, il y avait une aspiration à la paix, c'est-à-dire assez de guerres fratricides où on s'entre-détruit, où l'on s'entre-déchire. Et cette immense aspiration à la paix était quelque chose qui avait saboté. Il y avait une tentative aussi de créer une Europe culturelle pour les jeunes, Erasmus, etc. Bon, il y avait un élan. Et même, je dirais que quand l'Union soviétique pouvait sembler menaçante, c'est aussi fortifier l'idée, ben, au moins nous avons un peu de liberté. Bon, mais alors, donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette menace. Aujourd'hui, il n'y a plus cet élan. Je dirais même que les nouvelles générations politiques n'ont jamais connu la guerre, n'ont jamais connu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, l'Europe n'a plus aucune sève.
Heureusement que vous êtes là pour nous donner de la sève. Edgar Morin est notre invité ce matin. Il est 8h30 sur France Culture. Restez avec nous, Edgar Morin. On va écouter l'histoire internationale de Matteo Caranta. Edgar Morin, l'indifférence, c'est la source du mal?
L'indifférence est une des sources du mal, mais je veux dire que pire que l'indifférence, il y a le mépris et la haine. Je viens d'entendre dire qu'elle reçoit 200 menaces de mort par jour.
Et qu'elle est sous escorte policière.
Dans le fond, c'est pire que l'indifférence. Non, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'Italie n'a jamais été antisémite jusqu'à ces lois raciales de Mussolini, et que le peuple italien, que disons aussi bien que les juifs du nord du Piémont, que ceux de Rome, disons, étaient considérés comme des citoyens comme les autres. Et alors, ce qui est vraiment terrible, c'est de voir que cette Italie ouverte et tolérante s'est transformée, elle aussi, en pleine régression, puisque vous avez un antisémitisme qui n'existait pas, vous avez ce racisme, ce pays tellement accueillant qui est celui qui rejette le plus fortement les migrants qui arrivent, et là aussi je dis, comment se fait-il qu'un pays aussi ouvert, aussi plein de sympathie pour l'autre, se transforme, et c'est un signe aussi de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je répète, la régression généralisée.
On parlait des 30 ans après la chute du mur. Je citais tout à l'heure la une du Figaro. La une de Libération, c'est 30 ans après la chute du mur, l'érection de nouveaux murs, des murs un peu partout, avec effectivement cette montée des extrêmes droites, des nationalismes, des populismes, un rapport à l'autre, un rapport à l'immigré qui est particulier. C'est d'ailleurs sur cette question qu'est réapparue l'opposition entre Est et Ouest. Alors vous posiez la question Edgar Morin, mais c'est moi qui ai envie de vous la poser cette question. Comment expliquer ce renversement, cet étrange retournement de l'histoire ?
L'étrange renversement de l'histoire, c'est que la chute de l'Union soviétique a provoqué deux types de phénomènes. Le premier, c'est que les dirigeants ont cru qu'il y avait une solution magique qui était le libéralisme économique modèle États-Unis, et en établissant ces libertés économiques, ils ont favorisé non pas la concurrence, mais les mafias, d'énormes mafias économiques. Donc ça, c'est un premier. La deuxième chose, c'est que il y a eu un phénomène de dislocation des nations qui constituaient ce vaste ensemble, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à créer une confédération, mais cette dislocation a commencé par l'hostilité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et on peut dire qu'une des conséquences, c'est cette guerre de Yougoslavie, où une nation qui semblait déjà presque entièrement formée se disloque à partir de... Même pas des différences, parce qu'ils sont tous des Slaves, à partir de cultures religieuses et de cultures historiques différentes, puisque les Croates ont vécu sous l'Empire austro-hongrois et que les Serbes ont été dominés par les Ottomans. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, vous avez toute une série de phénomènes. La Tchécoslovaquie se décompose, vous avez des poussées qui s'arrivent. Et puis, les années Reagan-Thatcher déferlent sur le monde, avec la mondialisation et tout ce que ça suppose, avec pas seulement des phénomènes positifs d'échanges culturels, mais des phénomènes, disons, de domination du pouvoir de l'argent sur la planète et une dégradation de tous les processus qui ont conduit à l'indépendance des pays autrefois colonisés.
Vous parlez de régression aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'assiste pas à nouveau à de nouvelles poussées d'un monde à l'autre ? On voit, et là pour ne pas faire de jaloux, je vais citer Le Monde maintenant, aux racines des colères planétaires, de Santiago à Bagdad, de Beyrouth à Hong Kong, des manifestants dans la rue partout contre les inégalités, contre ce néolibéralisme dont vous parliez, contre la corruption, parfois contre les élites aussi, hein. Et souvent des jeunes, très souvent des jeunes qui se révoltent. Alors là, est-ce qu'on est dans une continuité de l'histoire ou dans un renversement ?
Je vais vous dire une chose. Moi, je suis effectivement très frappé par la beauté de ces soulèvements au Chili, en Équateur, au Liban, en Algérie et d'autres, etc. Je vois quelque chose, l'aspiration de ces peuples qui étouffent sous le poids des inégalités, du pouvoir de l'argent et de la dégradation générale que ça conduit. Mais je vois que malheureusement, ces soulèvements spontanés n'ont pas de structure, ils n'ont pas de pensée qui indique une voie, et ils n'ont même pas de leader. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés soit à retomber, soit à être écrasés. C'est un peu, disons, comme en France, il y a eu les Gilets jaunes. Bon, il y a eu, ça a duré plusieurs mois. Mais le caractère qui a fait la force du mouvement au départ, qui est son caractère anarchique, qui n'est pas guidé par une entité extérieure, et en même temps le facteur de sa décomposition. Alors moi, je vois, si vous voulez, un printemps des peuples, mais malheureusement, le regel qui arrive et qui va arriver. C'est ça qui m'attriste beaucoup dans la situation. Bien entendu, par exemple, Greta Thunberg. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est la Jeanne d'Arc, disons, de la conscience planétaire. Elle a le même âge qu'avait Jeanne d'Arc. Et au début, les médias se sont extasiés. Mais on a très bien vu qu'une campagne de dénigrement, avec sans doute derrière pas mal d'intérêts économiques qui veulent que les choses ne changent pas, qui a commencé à dire qu'elle retourne à l'école, qu'est-ce que c'est que cette petite gosse qui nous emmerde. Donc, vous voyez que les forces régressives, chaque fois qu'il y a une poussée vraiment dans le bon sens, vous avez à ce moment-là la répression partout. Partout, c'est ça. Mais donc, c'est contre ça qu'il faut résister comme on peut résister.
Ça, c'est l'histoire du combat qui fait avancer ou régresser l'humanité depuis toujours. Vous le dites et vous l'écrivez, Edgar Morin. C'est la guerre entre Eros et Thanatos. Et un temps, c'est Thanatos qui domine l'humanité, puis de temps en temps, voilà. C'est Eros. Et vous vous battez pour que Eros reprenne le dessus. C'est bien ça.
C'est bien ça.
Vous continuez de vous battre. D'ailleurs, vous dites que vous êtes possédé. Dans votre livre de mémoire, vous êtes possédé par le monde, possédé par les mystères de la vie, possédé par la vie tout court, par l'amour, par tout ce qui fait la vie. Qu'est-ce que c'est ce sentiment de possession, justement par opposition au sentiment de dépossession des Allemands de l'Est dont on parlait tout à l'heure? Comment ça se fait que vous êtes possédé comme ça?
Mais vous savez, d'abord, nous sommes tous possédés par des forces qui nous organise sans arrêt les forces qui font marcher mon système digestif, celles qui font fonctionner mon cerveau, celles qui me font déambuler. Alors, bon, il y a quelque chose en nous qui nous... Mais ça, c'est banal. Ce que je crois, c'est que quand on est amoureux, quand on est aimant, quand on est émerveillé, à ce moment-là, on est déjà dans une sorte d'état second, dans une sorte d'état de transe. Moi, par exemple, quand j'ai entendu pour la première fois la 9e symphonie de Beethoven, je me suis trouvé dans un état de transe proche de l'extase. Et du reste, nous-mêmes, quand nous sommes dans des grands moments d'exaltation, que ce soit dans l'amour, dans la danse, dans un spectacle à la nature, nous sommes à proximité de l'extase. Donc, si vous voulez, c'est ces forces qui nous possèdent, cette phénomène, disons, analogue à ceux de possession, comme j'ai bien connu le camp d'Omblé au Brésil, où les orishas, c'est-à-dire les dieux, s'emparent de l'esprit des fidèles. Là, vous savez, le mot enthousiasme, à l'origine grecque, ça veut dire possédé par les dieux. Donc, si vous voulez, c'est ça que j'appelle. Seulement, je ne suis pas possédé par des dieux particuliers, je suis possédé par ces forces de vie, d'amour, de sympathie, d'amitié qui sont en moi, des capacités de m'émerveiller devant une belle lecture, une belle poésie, une musique aussi. Donc c'est ça là que j'appelle être possédé.
On peut être possédé au sens où vous l'entendez, Edgar Morin, passionné, tout en ayant perdu ses illusions ou en étant très inquiet pour l'avenir du monde?
Tout à fait, puisque, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, une fois qu'on a pris le parti d'Eros, on est dans quelque chose qui est tonique, qui vous donne des forces. Moi, je pense que vivre dans des oasis d'amitié, de fraternité, ça nous aide très bien à vivre pour résister à ce qui arrive. Moi, quand j'étais par exemple résistant, dans un pays qui était soumis à un sort absolument triste, j'étais bien dans ma peau. Pourquoi? Parce que j'étais en accord avec moi-même, que ce que je faisais, ça avait un sens. Et je pense que c'est ça qui est important dans la vie, c'est de trouver le sens de sa vie. Non pas que le sens existe à l'avance, c'est de le lui donner. Et ce sens, je crois, c'est celui du parti d'Eros.
C'est trois mots que vous utilisez dans un message que vous aviez envoyé lors du repas d'anniversaire de la mort de Stéphane Hessel, que vous avez bien connu, Edgar Morin. Ce message, vous le rappelez dans votre livre de souvenirs, et ces trois mots, ce sont ceux-ci. D'abord, résister, comme il l'a fait toute sa vie, écrivez-vous, après la résistance contre le nazisme, dans la résistance à l'injustice, à l'humiliation, à toutes les vieilles barbaries renaissantes de domination, haine et mépris, et aussi contre la barbarie glacée de la domination, du calcul insensible et du profit, insatiable dès notre civilisation même, où l'on retrouve vos combats. Deuxième mot, engagez-vous, écrivez-vous, dans l'aventure incertaine de l'humanité vouée à tant de périls qui nous relient, en une communauté de destins planétaire. Engagez-vous pour que s'épanouisse en vous et en autrui la poésie de l'existence qui est communion, ferveur, amour. Troisième mot, aimez dans la lutte gigantesque et infinie entre Eros et Thanatos. Prenez hardiment le parti d'Eros, il vous tonifiera. Ça, c'est un message envoyé à tous les jeunes et à tous les moins jeunes de la planète, Edgar Morin.
J'espère que s'ils le reçoivent, ils l'incorporeront. Parce que ça leur fera du bien.
Allez, restez avec nous pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Juste un mot pour vous dire que nous continuerons sur France Culture à parler de la chute du mur, bien entendu. Aujourd'hui à 11h avec Affaires étrangères sur la théorie de la fin de l'histoire invalidée, justement, avec notamment Yasha Munk qui avait écrit Le peuple contre la démocratie et le politiste bulgare Ivan Krastev qui vient de sortir Le moment illibéral. Et demain, dans l'esprit public, qui sera en direct et en public du Théâtre de l'Odéon à Paris, Émilie Aubry recevra Hubert Védrine, Plantu, Aurélie Filippetti et Brice Couturier pour parler notamment de la question des conséquences de la chute du mur. 8h46 sur France Culture.